Kiosque Magazine.
Alors, bonjour à tous en ce mardi 2 décembre. Ben oui, on est rendu au mois de décembre. Ça se sent ce matin, le mois de décembre.
Oui.
On vous parle toujours de voyage, de nature, de science. On essaie d'avoir des sujets variés. Je suis en compagnie d'André Étienne.
Bonjour.
Qui a brisé la glace il y a quelques semaines. Mais ça va très bien, André. Alors, André, tu nous parles de quoi aujourd'hui?
Aujourd'hui, je vais vous parler de différents sujets, mais le premier que je voudrais aborder, c'est celui qui concerne l'Alzheimer.
Oui.
L'Alzheimer, on sait tous que c'est un fléau économique, que c'est un fléau humain, social.
Oui, c'est juste.
Et à l'heure actuelle, on n'a toujours pas de traitement curatif. Par contre, les chercheurs, de plus en plus, en sont certains, on peut retarder de plusieurs années l'apparition des symptômes de cette maladie. Alors, il y a cinq clés.
Les autres sujets.
André, les autres sujets.
Tu me parles des autres sujets.
Je vais vous parler café contre thé. Quel est le meilleur? On va voir. Et ensuite, je vais vous parler des plantes. Les propriétés de différentes plantes à différents niveaux de l'être humain.
Bien, ça promet. De mon côté, je vais vous amener sur les traces du thé. Che Guevara, tout le monde connaît Che Guevara. Et vous saviez en fin de semaine, ou vous ne savez pas qu'en fin de semaine, il y avait le Salon national des animaux de compagnie. On y trouve toutes sortes d'animaux de compagnie. Je vais vous parler d'un animal de compagnie assez spécial que vous connaissez, mais vous ne saviez peut-être pas que c'était un animal de compagnie. Voyage tout inclus. On en parle beaucoup. Je pense que tout le monde connaît, enfin, quelqu'un était dans un voyage tout inclus. On se fie souvent aux étoiles, mais qui attribue les étoiles et comment ça fonctionne? Alors, ben, restez avec nous, vous allez tout savoir.
Au revoir.
Alors, sur les traces du Che, c'est Simon Chabot qui nous en parle dans la presse du 8 octobre. Je crois que vous savez qu'après Fidel Castro, le Che, c'est, la figure la plus connue de la Révolution cubaine. Et c'est à Santa Clara. Santa Clara, c'est en plein cœur du pays. Et c'est là que le régime célèbre ce médecin argentin qui était venu changer le monde des Antilles. Selon Fidel Castro. On compte ici pas moins de 4 sites qui sont en hommage à Ernesto Che Guevara. Au bout de la place de la Révolution, il y en a partout des places de la Révolution à Cuba, hein, et sur son gigantesque socle de pierre, le regard de bronze perdu dans l'horizon, et c'est le Che, Ernesto Guevara. C'est l'enfant chéri de la Révolution cubaine à qui le régime castriste a voulu rendre un hommage grandiose dans la ville où il a accompli, il faut le savoir, son fait d'armes le plus connu.
Mais... Quel fait d'armes a-t-il accompli, alors, c'est, plus précisément?
Alors, quelques jours avant l'arrivée de Fidel Castro à La Havane, et ça, c'était le 1er janvier 1959, le Che et ses hommes ont fait dérailler un train blindé qui était destiné à soutenir les troupes du régime pro-américain, donc le régime de Batista. Alors, une vingtaine de rebelles à peine ont réussi à faire 400 prisonniers, une vingtaine d'hommes. C'était une poignée d'hommes, hein, la Révolution cubaine. C'est une attaque qui a fait la renommée du Che et qui a précipité la chute de Batista. À gauche du monument, il y a une fresque qui raconte la bataille de Santa Clara et la prise du train blindé. Et en dessous de la statue, vous avez un musée qui retrace la vie de ce médecin argentin et qui est devenu le comandante de Fidel Castro. Vous avez plein de chansons quand vous allez à Cuba qui chantent le comandante. Alors, les restes du Che ont été rapatriés de Bolivie où il est mort en 1967 en tentant d'y exporter la Révolution cubaine repose dans ce mausolée. Certes, important ce mémorial, c'est néanmoins aride comme le béton qui l'entoure. C'est pas le plus beau mémorial. On s'y sent loin des paysans de la Révolution cubaine. Quatre wagons et le bulldozer qui a déplacé les voies se trouvent aujourd'hui au cœur du petit monument qui a été installé précisément là où l'événement s'est produit en décembre 1958. En face, quelques boutiques vendent des souvenirs ornés du célèbre visage du Che et de bien sûr de sa casquette du Che aussi, oui, qu'on retrouve, oui, partout. Ça prend absolument des souvenirs. Hein? Oui. Et à quelques minutes de marche vers l'est, devant les bureaux régionaux du Parti communiste, on trouve une fois de plus le guérillero. Mais cette fois, c'est la statue, le Che et l'enfant, grandeur nature.
Wow, grandeur nature, mais est-ce qu'elle a quelque chose de particulier, cette statue?
D'abord, elle évoque la transmission des idées révolutionnaires. Puis, lorsqu'on regarde de plus près la statue, on voit que certains des moments marquants de la vie du Che ont été gravés dans son uniforme. Mmh. On voit aussi les 38 hommes avec qui il était capturé en Bolivie sur la boucle de sa ceinture. Et pour beaucoup de gens, ben, c'est parmi toutes celles que l'on voit à Cuba, la statue la plus jolie du Che. C'est vraiment une très jolie statue. Et dernière étape du pèlerinage révolutionnaire, c'est la colline del Capiro. C'est d'en haut, la vue sur Santa Clara et sa région, ça vole la vedette, à l'immense monument. On voit tout l'ensemble de la région. Vous avez le parc Vidal aussi, qui est au cœur de la ville, d'un peu plus de 200 000 habitants quand même, Santa Clara. Et c'est ce parc est le théâtre d'une constante animation. Le petit musée des arts décoratifs de la bibliothèque José Martí borde la place, c'est un autre grand de la Révolution, hein, José Martí. D'ailleurs, si ma mémoire est bonne, l'aéroport de Cuba, lorsqu'on arrive, c'est l'aéroport José Martí. Et donc, la bibliothèque José Martí borde la place et tous les soirs, il y a des musiciens qui enchantent les clients du café adjacent à la superbe salle de spectacle de la Caridad. La charité. Et de passage à Santa Clara, il ne faut pas manquer le centre culturel El Mujunje, qui présente des spectacles gratuits qui sont très courus par la jeunesse estudiantine de la ville. Vous avez une station balnéaire qui n'est pas très loin. En fait, c'est l'aéroport et Santa Clara. Et vous avez, qui est de plus en plus connue, les plages de Santa Lucia. Où vous trouvez l'un des récifs les plus importants du monde. Donc, vous avez, qui est beaucoup moins connu que d'autres, comme les récifs d'Australie, par exemple. Ouais, ben, parce qu'évidemment, on est à Cuba. C'est différent. Mais vous avez des récifs magnifiques pour les plongeurs sous-marins. C'est extraordinaire. Et il faut savoir aussi que le régime cubain est vraiment l'un des derniers régimes communistes de la planète. Dans ma tête, il y a deux régimes communistes qui existent encore sur la planète, c'est Cuba et la Corée du Nord. Les autres sont des faux régimes communistes.
Ah oui.
Mais celui de Cuba est vraiment à l'image de Fidel Castro, qui a été fidèle à son image tout le temps de sa vie. Alors, un petit tour à Santa Clara, mais surtout sur les traces du Che, de ses statues, de ses monuments. C'est Simon Chabot qui nous en parlait dans la presse du 8 octobre.
Ah, mais ça nous donne envie d'y aller avec la température qu'on a ce matin. Ce serait une bonne idée, hein?
Eh oui. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad. Y tú vendrás marchando junto a mí. Y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer anuncian ya la vida que vendrá. De pie marcial.
Eh bien, je vous le disais tout à l'heure, c'est de l'Alzheimer dont je vais vous parler à travers un article que j'ai trouvé dans Science et Avenir du mois d'octobre 2014. Bon, on sait qu'à l'heure actuelle, évidemment, on n'a pas de trouver de moyens curatifs comme tel, mais les chercheurs s'orientent de plus en plus vers un moyen qui peut retarder les symptômes, l'apparition des symptômes de cette maladie. Alors, ils proposent 5 clés dont je vais vous parler. La première, c'est renforcer ses neurones.
Comment on fait ça, renforcer ses neurones?
Oui, c'est pas forcément évident d'ailleurs. Ce qu'ils proposent, ils proposent d'abord des études les plus longues possibles. Ils disent qu'une scolarité longue conférerait en effet une protection contre les manifestations cliniques d'une démence, pas seulement donc l'Alzheimer, ou bien sûr de l'Alzheimer. Pour ce faire, ils disent qu'il faudrait atteindre ou dépasser au moins le niveau de quatrième secondaire. Et cette durée d'étude serait associée à un moindre risque d'apparition de démence. Alors, il y a deux types d'études. J'ai sous les yeux deux études, une étude canadienne, l'autre européenne. L'étude canadienne, elle confirme qu'effectuer moins de 6 années de scolarité doublerait le risque par rapport à ceux dont la scolarité a dépassé 13 années.
C'est étonnant, ça.
C'est étonnant, hein, quand même. Hein? Ça donne envie d'étudier le plus longtemps possible. Hein?
Oui.
En ce qui concerne l'étude européenne, elle porte quand même sur plus de 20 000 personnes qui ont plus de 50 ans. Et ils disent que chaque année supplémentaire passée sur les bancs de l'école compensera 4 ans de vieillissement cognitif. Ça veut dire qu'on peut retarder de 4 ans l'apparition des symptômes. Ils donnent deux autres recommandations aussi. Ils disent que parler plus de 2 langues couramment repousserait là de 5 ans l'apparition des symptômes. Donc vraiment, l'objectif, c'est toujours retarder l'apparition des symptômes. Bon, les diplômes, ce n'est pas tout le monde qui en acquiert. Ce n'est pas toujours facile non plus de pouvoir les faire. Et ils proposent un travail non répétitif et stimulant. Et cette qualité de travail serait associée à un risque moindre de démence. Donc ça, c'était la première clé. La seconde clé, c'est entretenir son corps. Alors, comment entretenir son corps? Pratiquer un sport régulièrement. Il y a un petit peu deux formules. D'abord, ils disent que 30 et plus d'activités physiques quotidiennes, comme marcher, monter des marches, plus 2 séances de 20 à 60 minutes par semaine d'exercice, comme nager ou marcher, faire des randonnées, faire du vélo, c'est vraiment la prescription pour un cerveau en pleine forme. On a constaté que des personnes ayant une activité physique faible ou modérée ont 35% de risque en moins de développer les signes cognitifs. L'activité physique, elle maintient une bonne santé des vaisseaux, ce qui entretient un fonctionnement optimal du cerveau. En plus, de toute façon, elle aurait un effet anti-inflammatoire, antioxydant, et surtout, elle favoriserait la libération de neurotrophines, qui sont des facteurs de croissance de la neurogénèse. La troisième clé, c'est surveiller ses vaisseaux. Comment faire?
Oui.
Soigner. Alors, il y a différentes approches, différents points à traiter. Le cholestérol, l'hypertension et le diabète. En 1998, une étude de plus de 2000 personnes dévoilait que 2 ans de traitement de l'hypertension artérielle réduirait de moitié le nombre des cas de démence. Le cholestérol, c'est aussi un facteur de risque qui réduit de 29% chez les patients traités contre le cholestérol. Donc, traiter l'hypertension, le cholestérol et le diabète. Parce que le diabète favoriserait aussi l'apparition des troubles cognitifs. D'autres points quand même aussi. Un rapport entre la masse corporelle trop élevée, ce qui est le poids, et un risque de maladie d'Alzheimer est vérifié et avéré. Et puis aussi, la fumée.
Oui, la cigarette.
Exactement.
Qui
est un gros risque pour favoriser l'apparition précoce de la maladie d'Alzheimer. Optimiser l'alimentation, c'est le quatrième point. Alors, donc, pour beaucoup de choses, manger des fruits, des légumes, des poissons, des huiles riches en oméga 3 et le vin, c'est bon pour le cerveau.
Ah, ça me fait plaisir.
Ça vous fait plaisir, hein? Vous aimez le poisson?
Ah,
alors,
oui.
Ce que je veux préciser, justement, en ce qui concerne les poissons, c'est qu'on recommande essentiellement les poissons qui sont les poissons de mer ou d'eau froide, c'est-à-dire le saumon, le hareng, le maquereau, l'anguille, la sardine ou le thon. Et de plus, ces poissons sont riches en vitamine B. Et on recommande aussi l'utilisation de vitamines B12 et B9. On les trouve dans le foie, le melon, les épinards. Et ça multiplie par deux. Le manque de vitamines B9 et B12 multiplie par deux le risque de développer l'Alzheimer. La vitamine D, indispensable également. Étonnant, 4 tasses de café par jour réduiraient le risque d'Alzheimer. C'est bon, hein, ça?
Étonnant.
La caféine protège les neurones. du moins chez les souris. Et puis aussi, une relation positive a été démontrée pour une consommation de vin modérée. La cinquième clé, c'est stimuler son cerveau. Alors, ils disent que définitivement, il vaut mieux peindre, bricoler, faire de la musique, des puzzles, jouer aux cartes, n'importe quoi, plutôt que de regarder passivement la télévision. Les activités mentales variées, quotidiennes, sociales, loisirs, diminuent le risque de démence. Évidemment, ils recommandent de pratiquer ça pas seulement quand on commence à approcher 50 ans, mais toute la vie, parce que ces pratiques entretiennent la réserve cérébrale en activant la, la plasticité du cerveau. Toutes les études vont dans le même sens. La première montre une activité mentale complexe durant toute la vie qui entraîne une baisse de 46% de l'incidence de démence. Et la seconde, l'entraînement cognitif à lutter contre la survenue de l'Alzheimer, elle doit être toute la vie.
Donc, si on résumait, en fin de compte, c'est stimulation. Stimulation intellectuelle, stimulation physique, physiologique.
Oui. Surveillance médicale aussi,
Et bonne alimentation.
Et bonne alimentation et activité physique, exactement.
Alors, c'était tiré de...
C'était tiré de la revue Science et Avenir du mois d'octobre 2014.
Tu servais le matin. J'ai oublié l'odeur, la couleur de ces fleurs du jardin, le trésor de tes mains. J'ai oublié la douceur de tes mains séchant mes pleurs, tes mots dressant mes peurs, mais ma place dans ton cœur. Non, jamais je n'oublierai. J'ai oublié les accents de ton rire, tes soupirs à la nuit tombée. J'ai oublié le charme de celle-là qui désarme quand de soi rien ne reste à donner. Ton baiser sur ma joue, souffle sur mon cou, tes mots durs et ton courroux, mais ton cœur qui pardonne tout. Non, jamais je s'est éloigné. J'ai oublié l'absence et la distance immense qui m'a fait renier d'où je suis. Oublier toutes mes folies, tous mes excès, tous mes soucis. Quand je suis revenu, tu m'as repris.
Eh bien, merci Jean-Sébastien de cette très belle chanson de Grégory Charles, J'ai oublié, sa maman est Alzheimer.
Oui, et je ne sais pas s'il fait tous ses spectacles, mais lors d'un spectacle qu'il avait dédié à sa mère, il demandait aux gens qui connaissaient quelqu'un dans leur entourage de se lever, s'il y avait quelqu'un de l'entourage qui avait de la maladie, et c'était incroyable.
C'est fou, hein?
La quantité de gens qui se sont levés à ce moment-là.
Ma maman
très
aussi,
touchant.
Je l'ai.
Ah oui. Je connais bien le phénomène. Bon, on passe à quelque chose d'un peu plus gai. Adopter un animal de compagnie, c'était dans la presse du 15 octobre sous la plume de Stéphanie Vallée. C'était le Salon national des animaux domestiques. Et donc, vous êtes allergique aux chiens, aux chats, mais vous voulez avoir un animal, un compagnon à quatre pattes. Ben, vous savez, le cochon miniature domestique est peut-être pour vous. Ces micro-cochons, il faut le dire, seront à maturité, sont environ de la grosseur d'un petit bulldog. Ils vivent en moyenne 15 ans. Il n'existe au Québec que deux éleveurs de cette race miniature, qui est assez rare d'ailleurs. Mais il faut faire attention de vous adresser aux bonnes personnes et à un professionnel, car les petits cochons sont tous semblables. Mais vous pourriez vous retrouver avec un beau cochon qui pèse plus de 120 livres ou de 50 ou 60 kilos.
C'est pas très miniature, ça, hein?
Surprise. Et qu'est-ce qui lui a donné à cette dame l'envie de se lancer dans l'élevage des micro-cochons. Elle dit qu'elle avait entendu parler des cochons miniatures par des amis qui avaient visité une ferme aux États-Unis. Et on est tombé amoureux après avoir adopté notre premier couple dans notre fermette. Et ils ont agrandi leur élevage au fur et à mesure et ils ont fait des alliances avec d'autres éleveurs du Canada et des États-Unis. Et maintenant, ils agissent à titre de refuge. On dit qu'ils placent une trentaine de cochons par année. Ben, c'est mignon, un petit cochon.
Bah oui, c'est mignon, un petit cochon, mais... Dans ma tête, un cochon, ça sent pas bon. ces petits cochons, parce qu'ils sont miniatures, n'ont pas d'odeur?
C'est une drôle de réputation, les cochons. Mais en fait, c'est que les cochons n'ont pas de glandes sudoripares. Alors, leur peau ne dégage aucune odeur.
C'est ce qui fait la différence avec les cochons normaux?
Non, je pense que c'est la même chose. Mais c'est les excréments. C'est une question de nettoyage. Bien, c'est sûr, les excréments ne sentent pas très bon. Mais elle a dit que c'est pas pire qu'un chat, la litière d'un chat, par exemple.
Parfait.
Et concernant leur peau, ils ont besoin d'hydratation régulière pour rester en santé. L'été, on doit leur appliquer de la crème solaire.
Mon
c'est
Dieu.
Une peau très, très tendre, hein, pour éviter des coups de soleil. Donc, vous enduisez votre cochon de crème solaire. Alors, ils sont très propres. Contrairement à ce que les gens peuvent penser, dit qu'elle les habitue à une litière avant qu'ils soient adoptés. Ils sont propres à partir à 24 heures après leur naissance.
Wow.
Car ils imitent leur maman en allant dans leur bac.
Ça va plus vite que les bébés humains.
Oui. Mais certaines personnes préfèrent apprendre à leur cochon à demander de sortir. Comme c'est le cas avec un chien. On peut aller promener son cochon dans la rue. Hein? Le genre de tempérament, ben, un micro-cochon dort 70 % du temps. Bon, on nous dit comme un chat, en gros. Hein? Mais il aime la présence de l'humain. Il ne doit pas rester plus de 8 heures par jour tout seul. On dit que son intelligence est comparable à celle d'un enfant de 4 ans. Mais c'est un joueur, il n'est pas physique, il est plutôt intellectuel. Il aime apprendre, il aime découvrir. Alors, ça demande des maîtres assez fermes. De par son intelligence, le cochon peut devenir manipulateur.
Oh non!
Ah oui, il a besoin de quelqu'un de constant, avec des règlements précis. Mais c'est un animal qu'on nous dit très joyeux. Très sociable avec les autres animaux. Il est très affectueux. Il aime beaucoup les câlins. Donc, c'est intéressant comme animal de compagnie.
Absolument, absolument.
Le genre de nourriture, ben, il existe une moulée spéciale qui est conçue pour les micro-cochons. Bon, on peut lui donner des fruits, des légumes, mais on nous dit comme friandises. Mais s'ils sont mal nourris, ils mangent trop de sucre, par exemple, les micro-cochons peuvent faire des blocages urinaires. Sinon, ce sont des animaux très résistants. On possède, eux autres, une liste de vétérinaires à la disposition des gens. Il faut aussi entretenir leurs sabots. Ça, c'est étonnant, c'est des sabots qui ont les... Alors, quand on les promène, ils vont user leurs sabots tout comme quand ils marchent sur le plancher. Et on peut les tailler, des sabots. Donc, c'est quelque chose de particulier que...
On pourrait peut-être les avoir en appartement à ce moment-là.
Mais si vous êtes dans le deuxième étage et votre cochon se promène, ça fait comme des talons hauts toute la journée, je ne suis pas sûr que la personne en bas ou votre propriétaire va adorer. Donc, il faut peut-être y mettre des petits coussins, je ne sais pas. Quand on les vend, ils sont déjà vaccinés, vermifugés. Ils offrent une garantie aussi de santé et un suivi. Donc, c'est sérieux comme adoption, si on veut. La stérilisation est obligatoire et elle est faite avant le départ. Et si pour une quelconque raison, les gens ne peuvent plus garder leur cochon, ils les reprennent, eux autres. Et ils peuvent le donner à un proche, mais ils ont l'obligation d'avertir l'éleveur pour qu'on approuve la nouvelle famille. Parce qu'on nous dit, heureusement, il y a un très faible taux d'abandon parce qu'il y a des critères très sérieux.
Alors, attendez, qu'est-ce qui sont les critères pour pouvoir adopter un cochon?
C'est spécial quand même. C'est pas comme adopter un chien. C'est avoir une maison ou un appartement au premier étage et qui ait un accès à une cour extérieure.
Oui,
pour laisser sortir le cochon.
Oui.
Disposer d'assez d'espace pour y installer une litière, et ses jouets, si vous voulez, et pas travailler plus de 8 heures par jour. Parce qu'il a besoin de compagnie.
Hein?
En condo, ça peut fonctionner pourvu qu'il s'engage à le promener tous les jours et qu'il n'y a pas d'escalier. Le froid n'est pas un problème. Pas plus important que pour un autre animal, que pour un chien, par exemple. Et on nous dit qu'ils sont frileux, cependant. Il faut faire de courtes sorties. Ah, vous voyez, c'est un animal de compagnie joyeux, quand même assez intéressant. Mais il ne faut pas se faire avoir, il faut être certain d'aller dans un endroit professionnel qui va vous donner un micro-cochon, un vrai. Sinon, vous pourriez avoir une surprise. Hein? Donc, c'était adopter un cochon miniature par Stéphanie Vallet dans la presse du 15 novembre.
Ben, je suis ravie, figurez-vous, parce que mon horoscope chinois, c'est cochon. Ça me plaisait à moitié, mais maintenant, je suis ravie d'être dans l'année du cochon chinois.
Vous écoutez Kiosque Magazine.
Café ou thé? Thé ou café?
Moi,
Michel?
Je bois du thé uniquement quand je suis au Maroc ou en compte du thé à la menthe ou
oh,
en compagnie
oui.
d'amis marocains. Et café parfois les fins de semaine. Pas parfois, les fins de semaine.
Bon, ben écoutez, c'est bien parfait parce que les deux permettent de prévenir un grand nombre de maladies. Alors, évidemment, tous les matins, dans les familles normales, les deux clans s'affrontent. Café pour l'un, adepte du coup de fouet. Les autres optent pour un réveil un peu plus en douceur en choisissant le thé. Mais de toute façon, dans les deux cas, ce sont des bonnes habitudes puisque des centaines d'études montrent que les fonctions préventives de ces deux boissons contre les maladies cardiovasculaires d'une part, certains cancers et notamment la sphère digestive, les deux produits ont des propriétés contre ça.
Et on parlait de l'Alzheimer tout à l'heure.
Oui, on parlait de l'Alzheimer. Ben, vous avez vu tout à l'heure, justement, je le mentionnais, hein, que le café et même le vin, d'ailleurs, aussi, étaient recommandés. Alors, le café. Bon, le café, il a a priori mauvaise réputation parce qu'il énerve, il augmente l'anxiété, fait trembler. Ce sont des effets indéniables, mais seulement à partir de 5 à 6 tasses par jour. Parce qu'en moindre quantité, puis c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il est plutôt bénéfique. Les migraineux en savent quelque chose, puisqu'ils connaissent son action vasoconstrictrice qui est utile en prévention des céphalées. Mais ce n'est pas tout. Une étude suédoise a montré qu'avec 2 tasses par jour, le risque de récidive de cancer du sein est divisé par 2.
Ah, ça, je l'ignorais.
C'est, moi aussi, je dois dire. Je l'ai appris en le lisant. Ça me fait plaisir de vous le faire découvrir.
On apprend plein de choses ici.
Voilà. Et c'est la même chose pour le diabète de type 2, même lorsque le café est décaféiné. Mais ça, pour avoir le même effet, il faut en boire au minimum 4 tasses quotidiennement. Un autre atout, c'est une étude américaine qui a mis en évidence que les infirmières qui boivent du café souffrent moins de dépression que leurs collègues. D'autres recherches aussi. Un résultat positif sur les fonctions cognitives, on en parlait tout à l'heure, puisque le café a un effet protecteur sur les maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer ou le Parkinson. Et ça, c'est lié à la stimulation par la caféine. Bon, le café serait-il devenu la panacée? Pas tout à fait, parce qu'elle reste déconseillée à la femme enceinte et elle reste également déconseillée pour le développement des jeunes parce qu'elle entraîne une perturbation des rythmes des cycles du sommeil. Alors, en ce qu'il en est du thé, lui, il jouit d'une bonne presse, a priori. Et savez-vous pourquoi? C'est parce que les Asiatiques en consomment énormément, on le sait, et ils ont une longévité supérieure à celle des autres occidentaux et autres.
Donc, on fait le lien entre les deux.
Exactement. Donc, ouais. C'est pour ça qu'en fait, le thé, lui, a bonne presse, alors que le café a plutôt une mauvaise réputation.
C'est juste.
Et c'est même cette publicité qui fait le succès du thé vert. Hein. Maintenant, on ne parle plus que de thé vert. Puis c'est quand même une très bonne habitude, ce thé vert, parce qu'il contient ce qu'on appelle des polyphénols qui diminuent le niveau de glucose dans le sang. Donc, qui peuvent lutter effectivement contre le diabète. Alors, il recommande d'en boire une ou deux tasses pendant les repas pour limiter le poids. On ne dit pas qu'il fait maigrir, hein, mais il limite la prise de poids. Et puis, en plus, des chercheurs coréens ont mis en évidence son action contre le stress. Et cette action contre le stress, elle est due à la théanine. La théanine, on ne la confond pas avec la théine. Hein. La théanine, c'est un acide aminé qu'on trouve uniquement dans le thé et dans un champignon au nom... je ne peux même pas vous le dire. Donc, l'activité de la théine sur le cerveau est démontrée. Elle diminue le stress mental, le stress physique. Elle a aussi un effet relaxant. Au niveau buccal, c'est le thé... est très recommandé parce qu'il est riche en fluor. Donc, il permet de lutter contre les caries. Mais soyez vigilants. Il faut faire attention à son effet colorant parce qu'en grande quantité, le fluor fait apparaître des taches jaunes ou marrons sur les dents. Or, les feuilles restent longtemps sur le théier et à ce moment-là, la quantité de fluor est plus importante. Donc, n'achetez pas du thé noir à très bas prix, parce que souvent il est fabriqué à partir des plus vieilles feuilles qui contiennent donc beaucoup
davantage
de fluor.
Ah oui.
Voilà, donc ça c'est déconseillé. Un autre bienfait, il préviendrait l'arthrite. Merveilleux, hein? C'est une équipe américaine qui a montré qu'en buvant 3 ou 4 tasses par jour, la quantité de protéines et d'enzymes qui endommagent les articulations diminue. Mais pour profiter pleinement de tous les bienfaits du thé, une recommandation, le mode de préparation, c'est bien important. Dépendamment de la qualité, de la variété de thé que vous allez utiliser, on le laisse infuser entre 3 à 5 minutes. Les puristes sont vraiment très précis, même à la température
oui,
de l'eau.
Oui, c'est presque un rituel.
Exactement, exactement. Mais si on les laisse infuser plus longtemps, après, le goût devient amer. Alors, il faut faire quand même attention parce que une grande absorption de thé freine l'absorption du fer d'origine végétale dans l'organisme. Alors, donc, déconseillé en grande quantité, en tout cas, chez les femmes enceintes, à ne pas boire pendant les repas. Parce que le fer est un élément indispensable à la formation du fœtus. Donc, voilà. Alors, bon petit déjeuner, profitez-en. Thé ou café, dans les deux cas, c'est une bonne chose.
Alors, voyage tout inclus, Nathael Morissette nous en parle après du 8 novembre 2014. Alors, en faisant des recherches en ligne, ben, vous pensez avoir déniché la perle rare pour vos prochaines vacances. Bien sûr, un hôtel 5 étoiles qui donne sur une magnifique plage, 3 restaurants à la carte, 2 piscines, etc. Or, en consultant votre agence de voyage, vous constatez que celle-ci lui attribue 4 étoiles, alors qu'un autre lui en donne 3. Et même 3,5. En général, la classification, ça relève des États. Ça, c'est étonnant. Chacun classifie selon ses normes et ses préférences. Et ça peut évidemment varier aussi d'un endroit à l'autre, d'un pays à l'autre. Alors, de l'autre côté, des voyagistes, comme quand on parle de voyagistes, on parle de Transat, de Sunwing, de Vacances Air Canada, et ils procèdent eux aussi à leur évaluation en dépêchant plusieurs fois par année leurs représentants dans les différents hôtels. Grille d'analyse en main, ils passent l'hôtel au peigne fin, qualité de la nourriture, nombre de restaurants offerts, les différents services, la qualité de l'hébergement. Bon, ça fait partie des différents critères d'évaluation. Et c'est à la lumière de cet examen que les voyagistes accordent leurs étoiles. Et c'est à partir de cette évaluation que des agences de voyage présentent leurs brochures à leurs clients. Alors, si cette méthode d'attribution peut guider les vacanciers, elle a toutefois des failles aussi. Parce que même si le système de classification des hôtels est un bon repère, ceci reste un guide général. Et ça, on le lit dans le document même de Sunwing, qui dit que c'est un guide général. Parce que les standards d'hospitalité peuvent changer selon le pays. Si vous avez des étoiles au Mexique, ce n'est pas nécessairement les mêmes à Cuba, par exemple. Et qui plus est, il arrive qu'un hôtel affiche un nombre d'étoiles différent selon les agences.
Mais comment on peut expliquer cette situation? Parce que si je comprends bien, mes critères qui sont bons dans un pays peuvent ne pas être les mêmes dans un autre pays, c'est ça?
Alors, si les agents de voyage qui connaissent, elles aussi, les hôtels ne sont pas d'accord avec l'évaluation qui est faite par le grossiste, dont je parlais tout à l'heure, Transat, Sunwing, etc. Donc, elles sont tenues d'attribuer les mêmes cotes. Et on sait que certains grossistes exagèrent. Ils sont très généreux. Il ne faut pas oublier que des hôtels qui se décotent avec le temps. Je connais très bien qu'il y avait un 5 étoiles, mais quelques années après, ils sont rendus avec un 4 et même parfois un 3.
Mais peut-être aussi lié à la qualité de l'hôtel qui diminue, non? C'est pas forcément...
Oui, tout à fait, c'est la qualité de l'hôtel qui diminue. Alors, tout le monde, évidemment, veut un 5 étoiles au prix d'un 3 étoiles. Air Transat assure de son côté que ses évaluations sont réalisées avec la plus grande rigueur et nous dit que notre système de classification fait appel à des professionnels du voyage. Bon, je les crois bien. Alors, s'il arrive que l'entreprise donne une meilleure évaluation à un hôtel que son compétiteur, c'est que parfois, certains établissements offrent des exclusivités aux clients de Transat. Et ça, c'est vrai, c'est juste. Comme, par exemple, des chambres mieux situées, des repas à la carte, par exemple. Ouais. J'ai eu l'occasion de le vivre récemment. Un grossiste donnait 4, l'autre donnait 5, et qui était Air Transat, mais qui avait des chambres supérieures à ce moment-là. Alors, ce que je suggère aux clients, c'est d'aller voir les commentaires sur différents sites d'évaluation. Il ne faut pas seulement se fier à l'évaluation des fournisseurs.
Alors, comment fait-on pour choisir son forfait? On est perdu dans toutes ces informations-là.
Oui, absolument. Il y a différentes façons. Une des premières, je vous dirais, c'est parlez-en à vos amis. Rien ne vaut une recommandation de quelqu'un que vous avez confiance dans cette personne-là. Tout le monde est déjà allé au soleil ou connaît quelqu'un qui y a été, qui a passé des belles vacances et qui va vous donner ses critères. Vous la connaissez, cette personne qui accepte tout, c'est différent. Ouais. Aussi, vous avez des sites d'évaluation qui sont très, très bien. On le fait lorsqu'on réserve un hôtel, mais peu de vacanciers prennent le temps de consulter des forums de voyageurs, comme par exemple TripAdvisor. Qui est le plus connu. Oui. On y retrouve des informations clés sur la propreté des lieux, le niveau de bruit, la distance de la mer et des données que vous ne retrouverez pas sur le site des hôtels. Et portez une attention particulière aux commentaires des gens. Oui. Vous allez voir l'ensemble. Oui. Parce que vous allez toujours avoir un petit coucou qui va un hôtel 5 étoiles qui va avoir trouvé ça épouvantable.
Oui.
Ben, c'est pas à lui qu'il faut se fier. Si vous avez 450 personnes qui ont dit c'est magnifique, je pense que c'est déjà un indice. Et ensuite de ça, et ça, je suis pas payé pour dire ça, mais faites affaire avec une agence de voyage. Vous n'avez pas mis les pieds dans une agence de voyage depuis l'arrivée de l'Internet dans votre vie, ben, c'est peut-être le moment de consulter un spécialiste du voyage. Surtout si vous n'avez pas le temps de faire vos propres recherches. Les agents qui vendent beaucoup de forfaits visite régulièrement.
Oui, c'est
le cas de mon agent.
Oui,
il visite les lieux et est capable de vous donner un avis réel, précis. Oui. Il va vous dire, c'est marqué, c'est un 5 étoiles, mais c'est un 4 étoiles.
Oui.
Et c'est très, très précieux. Aussi, si vous avez un problème en cours de route, ce qui m'est arrivé avec le fameux volcan en Europe, où l'Europe était paralysée,
Si
vous nous faites affaire avec directement, vous n'avez aucun espèce de recours. Vous êtes mal pris et vous n'aurez pas de remboursement. Si vous avez affaire à une agence, elle va prendre les mesures nécessaires, par exemple, pour vous rapatrier.
Ah oui?
Tout à fait. Tout à fait. Et je suis... évidemment, les gens font affaire avec Internet directement maintenant. Ça va bien, c'est rapide. Mais les gens pensent aussi qu'ils vont avoir un meilleur prix. Ce n'est pas le cas, mais pas du tout. Donc, voici quelques petits moyens pour savoir choisir un forfait et se fier aux étoiles. C'était tiré de deux articles, en fait. Nathalie Morissette et Stéphanie Bérubé dans la presse du 8 novembre.
Merci beaucoup. Bon voyage à tout le monde.
Je marche fragile comme une jonquille, poussée au dos par un grand vent. Et toutes les pensées qui m'habillent me donnent un air de cerf-volant. Je prends des sentiers peu faciles qui vont traînant sur les collines, où des tas d'arbres un peu graciles me tendent leurs bras et leurs racines. Je passe tranquille dans des forêts, j'arrête un soir sous une cascade pour y siffler un vieux menuet avec des oiseaux de parade. Je trouve la mer au bout du ciel, dans l'eau le plancton étincelle, et dans le noir toutes les étoiles gonflent mon âme comme une voile. Je voyage, et dans ma tête et dans mes reins l'idée de toi fait son chemin. L'idée de toi je croise enfin des cabarets, des inks mouillés et des gens ivres dans des pays où le ciel livre des tonnes d'envie et de regrets. Je plonge mon cœur dans des regards où flottent ennui et désespoir. Puis je repars pour voir ailleurs si le monde enfui n'est pas meilleur.
Alors, et... Annie Poulet, je voyage. Je voyage. Allez, André.
Bon, alors moi, je vais vous parler d'un article qui est une question. Les plantes vertes dépolluent-elles? Et c'est un article qui est tiré de Ça m'intéresse du mois de septembre 2014. Alors, c'est simplement en 1980 qu'un chercheur de la NASA a mis en évidence le fait que les plantes possèdent un système de filtration qui peut réduire la pollution de l'air intérieur. Comment ? Parce qu'elles absorbent les pollutions avec leurs feuilles et les convertissent en produits organiques. Alors, ces travaux sont réalisés en laboratoire, dans une enceinte close et contrôlée de 1 mètre cube. Les résultats étaient très probants et donc des guides ont fleuri sur Internet. Les jardineries ont commencé à faire grande publicité de cet avantage dépolluant des plantes. Mais en 2004, des chercheurs français lançaient un vaste programme pour vraiment informer le public à bon escient et vérifier si on pouvait déboucher sur un label « plante dépolluante ». Alors, ce qu'ils ont fait, ils ont pris trois plantes, ils ont sélectionné trois plantes qu'on retrouve facilement dans nos appartements, à savoir le dragonnier, le pothos et la plante araignée. Et ils ont été soumis à plusieurs polluants qu'on trouve dans notre environnement, à savoir le formaldéhyde dans la colle des moquettes, le benzène dans la fumée de cigarette, maintenant il n'y en a plus, semble-t-il, le monoxyde de carbone qui émane des appareils de chauffage au gaz. Alors, en laboratoire, les trois ont confirmé la capacité des plantes d'éliminer les polluants. Leur concentration dans l'air a diminué de 30 à 90%.
Ah, c'est considérable quand même.
C'est considérable, hein?
Oui.
On parle des résultats obtenus en laboratoire.
Oui.
Mais en 2012, la dernière phase des recherches en conditions réelles s'est faite dans une chambre de 32 mètres cubes cette fois-ci. Et là, il y a eu quelques limitations de résultats.
Ah.
Parce que pour obtenir le même résultat, il aurait fallu installer, tenez-vous bien, près de 1000 plants pour faire baisser le niveau des polluants dans la chambre.
Ah oui.
Donc vous voyez qu'en
sérieux. Là.
En conclusion, c'est pas très, très sérieux.
Les recherches en laboratoire, ça peut être très, très, très différent.
Ben voilà, c'est ça. Là, c'est vraiment
ben
la preuve que les résultats en laboratoire ne sont pas forcément corroborés par les résultats en situation réelle, finalement.
C'est comme le kilométrage sur les voitures.
Ah oui?
Ben oui, une auto qui fait 4,5 litres au kilomètre ou 7, c'est pas du tout la même chose sur la route. Là.
Ah ben oui, c'est vrai.
C'est un laboratoire.
On n'a pas forcément le vent dans le dos comme dans les tests. Alors là, on peut se poser différentes questions à partir de cette dépollution des plantes.
Est-ce qu'on peut dormir avec une plante sans que ça soit dommageable?
Ah oui, ça, c'est une grande question. Hein? Et puis, justement, dans les hôpitaux, on veut toujours sortir les plantes. Alors,
oui, c'est ça.
Ce qu'on sait, c'est que les plantes vertes, normalement, dans la journée, elles envoient de l'oxygène et elles consomment le gaz carbonique qu'on émet.
Oui.
Mais la nuit, quand il n'y a plus le phénomène de photosynthèse, puisque le phénomène de photosynthèse est lié à la lumière, à ce moment-là, les plantes inversent le processus,
voilà.
C'est-à-dire qu'elles absorbent de l'oxygène et qu'elles rejettent du gaz carbonique. Par contre, ce qu'il faut considérer, ce sont les quantités, parce que les quantités absorbées et rejetées sont infimes. Je vais vous donner des chiffres, mais ça vaut le coup quand même, là. Une plante consomme 0,009 millilitres d'oxygène par centimètre carré, contre 12 à 15 litres d'oxygène par heure de sommeil pour un être humain. Donc, vous voyez, aucun risque d'asphyxie.
Aucun risque,
hein?
Non.
En revanche, quand même, il faut considérer que l'émission de composés organiques volatiles et d'allergènes peut provoquer des réactions chez les personnes qui sont fragiles. Donc, faire attention aux gens qui souffrent d'allergies, même peut-être méconnues. Quelqu'un qui est identifié allergique à quelque chose pourrait être allergique aux allergènes des plantes. Donc, déconseiller dans la nuit dans ce cas-là. Mais pas de risque d'asphyxie.
Alors, les fumées assainissantes.
Ah oui, les fumées assainissantes. Là, c'est très à la mode. Hein.
Ouais,
on utilise beaucoup de choses. C'est vendu pour purifier l'air, supposément.
Oui.
Supposément, mais en réalité, leur parfum peut cacher des produits toxiques. Alors là, j'ai sous les yeux différents produits quand même, qui sont très utilisés. L'encens. Oui. Ils se présentent sous forme de bâtons ou de cônes et sont fabriqués à partir de broyades végétaux dont la composition est généralement difficile à connaître. Et leur utilisation, c'est le résultat de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, leur utilisation, disent-ils, semble présenter des risques pour la santé, même dans le cas d'un usage mensuel. Parce qu'ils émettent du formaldéhyde, du benzène, deux cancérigènes. Les huiles essentielles, on en parle beaucoup, hein?
Oui.
Alors, les dispositifs d'évaporation à chaud des huiles essentielles peuvent libérer des résidus de combustion, de poussière, de formaldéhyde. Et il est plutôt conseillé d'utiliser un micro-diffuseur ou un diffuseur à ultrasons ou un vaporisateur. Les bougies parfumées, ça c'est la grande mode, hein? Puis on va en voir encore
en
plus.
Ben,
au moment de Noël, encore plus, hein? Alors, les cires sont d'origine multiple, animale ou minérale ou végétale, mais elles contiennent souvent des colorants artificiels et des parfums de synthèse. Bon, ça, c'est quand même moins nocif que l'encens, mais par contre, pour certaines, il y a des particules fines, du formaldéhyde, de l'acroléine qui sont irritants pour les yeux ou les voies respiratoires. Le dernier, c'est le papier d'Arménie. Est-ce que vous connaissez
oui,
ça?
Oui.
On l'utilisait beaucoup autrefois.
Oui, exact.
Ben, j'ai l'impression que maintenant, c'est un petit peu moins maintenant.
Je n'ai pas entendu parler depuis longtemps.
En tout cas, il est répertorié quand même dans les fumées assainissantes qui ne sont peut-être pas aussi bonnes que ça puisqu'ils disent que la fumée contient des particules de benzène et de formaldéhyde, mais quand même en faible quantité. Alors, dans tous les cas, aérer.
Voilà.
Écoutez, on n'est pas loin de la fin de l'émission, puis j'ai un article sous les yeux qui est assez une idée originale, saugrenue, provocatrice, quelque chose. Alors, je ne vais pas vous dire tout de suite ce dont il s'agit, ça s'appelle « Suivre le courant ». La suggestion « Suivre le courant », elle est intervenue par l'intervention de deux étudiants britanniques qui avaient participé à un petit concours à l'université pour trouver des façons d'impliquer l'ensemble des étudiants pour diminuer les risques que court la planète. Alors, savez-vous ce qu'ils ont proposé? Eh bien, ils ont proposé de faire pipi sous la douche le matin au réveil.
Mais c'est bien ça!
C'est une bonne idée, hein?
Mais certainement.
Bon, il faut quand même savoir qu'il y a une chose qui est précisée, c'est que pipi sous la douche, il faut vraiment que faire pipi sous la douche, il faut que la douche coule.
Ben, j'espère. Hein?
Ça, c'est important. Ça, c'est vraiment quand même important que la douche coule en même temps. Il y a quand même pas mal de gens qui vont penser ou dire, mais c'est complètement malade. Par contre, en termes d'hygiène, il faut savoir une chose, c'est que ça peut mettre mal à l'aise les gens, mais il y a moins de bactéries dans l'urine qu'on en a sur nos mains. Alors, il fallait quand même en parler parce que les bénéfices liés à ça, c'est que chaque matin, si 15 000 étudiants donc dans cette ville font pipi sous la douche, ça économise 26 piscines olympiques quotidiennement. Alors,
ça vaut la peine,
ça vaut le coup. On est quand même recommandé d'en parler avec vos colocataires si vous en avez ou les gens qui partagent votre vie. Mais en tout cas, vous pouvez nous dire ce que vous en pensez. Il y a d'autres idées qui ont été émises aussi, quand même un peu moins originales, quoique très efficaces. C'est fermer le robinet quand on se brosse les dents.
Ben oui.
Eh oui, mais c'est pas toujours comme ça. Foglia en avait parlé, il avait eu une discussion avec sa fiancée. Alors voilà, donc c'est une suggestion, une proposition qui peut faire sourire ou être acceptée.
Alors, j'espère que vous avez apprécié la variété de nos sujets. Merci André, merci André Étienne, et merci aussi pour la mise en onde des choix musicaux très pertinents à Jean-Sébastien La Liberté. Vous pouvez nous rejoindre sur notre site canalm.org et on est en reprise. Si vous voulez nous attendre à nouveau, vous avez manqué des sujets, allez-y, 13h et 21h. Alors, on vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.
Bonne semaine.